vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet, Pauline Leduc,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir.
Bonsoir, messieurs.
Oui ?
J'ai une petite faim. Je suis pressé, garçon.
Je m'appelle Georges.
Alors, Georges, un steak frit.
Fais un petit peu de sel. Je me présente, Jordan, commissaire Jordan. Peut-être bien les frères Tourian et Tourian, les artistes du couteau, amateurs de jolies femmes. Alors dis donc, il paraît qu'on veut me fourrer à sec. Ben, je suis d'accord. Lequel commence ?
La gouaille et le sens des scènes d'action de Jean-Paul Belmondo, ici dans un extrait du Marginal de Jacques Deray. Bébel, comme on le surnommait, une légende du cinéma français. Il s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 88 ans. Un de ses acteurs les plus populaires. Impossible évidemment de citer tous ses films qui ont fait un tabac au box-office. Le Cerveau, Peur sur la ville, Le Professionnel, L'As des As, À bout de souffle, Un Saint-Jean-Hiver, Borsalino, Léon Morin-Prêtre. Des films d'action pour beaucoup, mais pas seulement. Il aura tourné en fait avec les plus grands réalisateurs français. Alain René, Louis Malle, Godard, Verneuil, Melville, Lautner, Lelouch, Frappeneau ou encore Philippe de Broca, comme pour Le Magnifique en 1973. À ce moment-là, au micro de nos confrères de France Inter, il expliquait comment il choisissait ses films et ce qu'il appréciait sur les plateaux de tournage.
En premier, c'est l'histoire, parce que sur une bonne histoire, je pense que c'est déjà pour moi 50% de gagné. Et après, un très bon metteur en scène, parce que aussi, évidemment, une très bonne histoire avec un mauvais metteur en scène, ça ne sert à rien, mais un très très bon metteur en scène sur une histoire pas bonne, ça sert à rien non plus. Mais je crois que toujours une bonne histoire, quand on va, enfin moi personnellement, quand je vais au cinéma, j'ai envie qu'on me raconte une histoire, une bonne histoire. C'est déjà beaucoup.
Vous aimez distraire les gens ?
Ah, moi c'est ce que je préfère. C'est, je suis devenu acteur pour ça. C'est-à-dire que j'ai joué au théâtre pendant 10 ans, mais j'ai joué que des comédies. Et le cinéma après m'a emmené un peu dans le drame. Et disons à la base, ce que j'aimais beaucoup, c'était le comique. En comique, ce qui compte, c'est de bien se comprendre et d'avoir le même humour, disons, et de faire le même film comique. Pas un qui veut faire de la grosse charge et l'autre l'humour anglais.
On s'aperçoit que Jean-Paul Belmondo est un acteur populaire, populaire auprès du public, populaire auprès des critiques et populaire aussi lorsqu'on pénètre sur un plateau de cinéma.
Oui, je sais pas pourquoi, mais je sais pas, oui.
Si, tout à l'heure, lorsque vous êtes rentré, tout le monde vous a applaudi, peut-être parce que vous êtes toujours très gentil sur un plateau.
Oui, disons que je suis toujours de bonne humeur, mais je dois dire aussi que l'équipe est très bonne, hein, aussi. Je crois que c'est pour ça. Puis, il y a beaucoup de gens avec qui je travaille, avec qui j'ai travaillé tout jeune, et on se retrouve tous là, alors je crois que tout le monde est content de se retrouver.
L'esprit d'équipe, ça compte ?
Oh, ça compte énormément, oui, dans un film. Vous savez, les gens, quand on dit... l'acteur, ça lui est égal de l'ambiance. Moi, je suis très sensible à l'ambiance. J'aime bien que toute l'équipe, que tout le monde soit... qu'il y ait vraiment une équipe, comme au théâtre, une troupe.
Le film de Philippe de Broca est une comédie, mais c'est aussi un film d'aventure.
Oui, oui, c'est une comédie, c'est ça, et en même temps d'aventure, puisqu'on voit les aventures de ce James Bond. Là, on vient d'aller tourner au Mexique, où il fait un tas de...
Et vous avez eu des ennuis au Mexique, vous êtes blessé.
Oui, je me suis tordu une cheville, enfin je me suis fait une entorse assez longue puisque je suis resté 10 jours dans le plâtre, mais enfin on a continué à tourner quand même.
Vous n'aimez pas vous faire doubler lorsqu'il y a une scène périlleuse ?
Ah non, ça, j'aime pas ça, j'aime pas rester dans mon fauteuil et regarder un autre le faire. Et je pense que quand je pourrais plus le faire, ben je ferais un autre genre de film. Je jouerais que, comme aujourd'hui, que des pépés.
Voilà, le rire de Jean-Paul Belmondo, décédé donc à l'âge de 88 ans. Belmondo qui avait refusé en 1989 le César du meilleur acteur pour son rôle dans Itinéraire d'un enfant gâté de Claude Lelouch. Il s'était ensuite consacré essentiellement au théâtre, mais avait reçu une palme d'honneur à Cannes en 2011 et au César 2017 avec une ovation debout. Il était déjà à ce moment-là très diminué par la maladie. Nous reviendrons évidemment très largement sur son décès dans les prochaines éditions de RFI. Les hommages commencent évidemment à affluer. Philippe Jaénada, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain. Dans quelques secondes, on va parler de votre nouveau livre qui vient de sortir. Peut-être une réaction comme ça à chaud. Quelle est la première image de Jean-Paul Belmondo qui vous vient à l'esprit ?
Alors, ma réaction à chaud, c'est que je suis extrêmement triste. Je viens de l'apprendre en arrivant dans mon studio parce que je n'ai pas de téléphone, donc je ne savais pas. et j'ai pris un coup sur la tête en même temps. Voilà, il faut mourir un jour. La première image qui me revient de Jean-Paul Belmondo, assez curieusement, il apparaît dans mes livres à plusieurs reprises, et dans le dernier, parce qu'on pensait que ses filles, que l'étrangleur voulait kidnapper ses filles, ses deux filles qui étaient à l'école primaire à l'époque. Et puis dans Bruno Sulac, c'est l'image qui me revient en fait, dans Le Professionnel, Jean-Paul Belmondo, qui aimait beaucoup les milieux de la boxe, etc., a fait tourner dans Le Professionnel le complice de Bruno Sulac, son alter ego presque, qui était alors recherché par toutes les polices de France, et il lui a fait jouer le rôle d'un policier. Et donc on le voit dans plusieurs scènes du Professionnel, Steve s'appelait le complice, à côté de Jean-Paul Belmondo, en policier, mais avec une Rolex au poignet. Quand on zoome, on s'en rend compte, ce qui est assez rare chez les policiers de base. Donc voilà, c'est ce personnage qui était à la fois un grand acteur et, j'en suis à peu près sûr, même si je n'ai jamais parlé avec lui, un bon gars.
Philippe Génada dans VMDN, merci. Alors venons-en à présent à votre livre. C'est une affaire sordide qui est au cœur du livre, une affaire qui fait partie des annales judiciaires françaises. En 1964, un enfant de 11 ans, Luc Taron, est retrouvé mort, assassiné dans une forêt de la région parisienne. Très vite, son présumé meurtrier inonde la presse, la police, les parents de sa victime de lettres qui signent d'un surnom qui fait froid dans le dos, l'étrangleur. Cet homme, c'est Lucien Léger, qui va se rétracter quelque temps plus tard, qui va jurer qu'il a endossé le crime de quelqu'un d'autre, mais qui sera condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et qui passera 41 ans derrière les barreaux, devenant ainsi le plus ancien détenu de France avant d'être libéré en 2005, un peu moins de 3 ans avant sa mort. De cette affaire, Philippe Génada, vous avez donc tiré un livre enquête passionnant qui nous plonge dans une France pleine de zones d'ombre, peuplée de monstres dont le pire n'est sans doute pas celui qu'on croit. Près de 750 pages foisonnantes de détails, de pièces à conviction, avec ce zeste d'humour, d'ironie et d'humanité qui font de ce livre un vrai plaisir de lecture. 4 ans après La Serpe, qui a remporté le prix Fémina, voici donc Au printemps des monstres, le 11e roman de Philippe Génada. Il est paru chez Mialet Barreau et vous m'en direz des nouvelles.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Alors vous parliez à l'instant, Philippe Génada, de Soulac en 2013. Il y a eu aussi La Petite Femelle en 2015, La Serpe, hein, évidemment, qui a reçu le prix Fémina en 2017. Et maintenant, donc, Au printemps des monstres. Et c'est votre 4e livre autour des faits divers. Qu'est-ce qui vous intéresse tant dans ce genre qu'on a longtemps, souvent, un petit peu méprisé? Ça n'a pas bonne réputation, le fait divers en France.
Ça n'a pas bonne réputation parce que tant qu'on le considère... C'est Bourdieu, je crois, qui disait « fait divers, fait diversion ». Tant qu'on le considère comme un fait divers, ça n'a évidemment aucun intérêt. Moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est justement la vie, c'est-à-dire c'est la nature humaine, ce sont les gens. Et un fait divers, un crime, c'est souvent sauvage, haineux, stupide, ça n'a absolument rien à voir avec l'humanité. Dans l'actualité, quand le fait divers fait partie de l'actualité, il n'a aucun intérêt parce qu'il passe, on n'a pas le temps de se pencher dessus, de regarder derrière. En fait, pour moi, le fait divers est une porte qu'on peut ouvrir sur, il n'a en lui-même aucun intérêt la plupart du temps, mais c'est une porte qu'on peut ouvrir sur l'humanité, non seulement sur la victime et le coupable ou présumé coupable, mais aussi sur tous les gens qui l'entourent. Et pour un écrivain, quand il y a eu crime ou fait divers, il y a eu enquête de police, il y a eu procès, et donc il y a archives. Là, pour l'affaire Lucien Léger ou l'affaire Luc Taron, on l'appelle comme on veut, il y a 30 000 pages d'archives. Et c'est-à-dire que moi, j'ai une extraordinaire équipe d'assistants, qui sont tous les policiers, les gendarmes, les juges d'instruction de l'époque, qui ont travaillé comme des fourmis studieuses, et qui me fournissent vraiment une matière première extraordinaire. Ils ont enquêté partout, ils ont interrogé tout le monde. Moi, je prends ça et j'essaye de raconter l'histoire.
Alors, évidemment, pour avoir envie de s'emparer de toute cette somme, eh bien, il faut que l'idée vous vienne. Et tout commence, là, par une conversation sur un trottoir, juste après une émission de radio, comme quoi la radio...
Ça sert.
Ça peut servir, effectivement. Conversation avec Maître Henri Leclerc, qui est l'un des ténors des grands avocats pénalistes français. Vous évoquez, donc, avec lui cette affaire Luc Taron. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous emparer de cette histoire, Philippe Génada?
C'est difficile à dire. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a une part d'inconscient ou d'instinct, ou je ne sais pas comment appeler ça, mais au départ, je me dis pas, c'est-à-dire que, en fait, donc, pour résumer vite fait, je devais participer à une émission de radio avec Henri Leclerc, qui venait de publier ses mémoires, et pour ne pas avoir l'air complètement tarte face à ce grand personnage respectable, j'ai lu les mémoires avant l'émission, il évoque de nombreuses affaires et il y a 4 ou 5 pages ou 6 sur Lucien Léger. Il dit qu'il est probablement coupable, mais qu'il y a des zones d'ombre. Moi, j'avais oublié cette histoire de l'étrangleur. Et donc, je lui en parle en sortant de la maison de la radio. Et je ne sais pas, dans sa manière de me parler, il y a quelque chose. Il avait l'air de pas vouloir me dire... Non, il ne cachait rien, mais il avait l'air... C'était assez trouble, la manière même. Il disait à la fois, c'est sûr, c'est lui, il est coupable, et en même temps, on ne sait pas, mais peu importe, maintenant, il est mort, etc.
Donc vous dites, il y a un lièvre.
Oui, je me dis, je sens qu'il y a quelque chose, en tout cas suffisamment pour m'intéresser, en tant que pour éveiller ma curiosité. Quand je suis rentré chez moi, j'ai commencé à chercher sur Internet tout ce que je pouvais. Je me suis pas dit du tout, je vais en faire un livre. Parce qu'il faut pas mal de paramètres et de critères pour que ça puisse faire un livre, enfin qui moi en tout cas m'intéresse d'écrire. Mais ça m'a amorcé, ça m'a harponné. Et puis ensuite, je suis tombé dans une spirale de 4 ans qui m'a complètement englouti.
Bon, petit détail que vous pointez dans le livre, vous êtes né le 25 mai 1964. Luc Taron a été assassiné dans la nuit du 26 au 27 mai. Hasard total, évidemment, mais il y a de quoi déjà un petit peu troublé. Petit clin d'œil du destin, quoi.
Oui, voilà, c'est évidemment, ça ne suffit pas à me décider à me lancer dans 4 ans d'obsession. Mais j'aime les coïncidences. Je n'arrive pas à savoir si j'y crois ou si je suis d'un côté assez cartésien. Mais à chaque fois, je croise une coïncidence, et il y en a beaucoup dans ce livre.
Ouais.
Comme, je pense, partout, si on regarde, quand on cherche, on les trouve. J'ai l'impression que ce sont des petits... des repères. J'étais l'autre jour à Namur, qui est assez loin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais parfois, sur les trottoirs, il y a la petite coquille Saint-Jacques, ouais, dorée, qui indique qu'on est sur la bonne route. Voilà. Quand on marche à Namur, qu'on va aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, qu'on voit ça par terre, on se dit, c'est bon, on a encore de la route à faire, beaucoup. Mais
Namur,
en tout cas,
c'est en Belgique.
Oui. En tout cas, on est sur la bonne route. Les coïncidences, ça fait un peu ça. J'ai l'impression qu'elles m'encouragent sur le bord de la route. C'est bon, t'es sur le bon chemin, continue. Mais c'est plus un clin d'œil qu'autre chose, effectivement.
Alors, pas mal de coïncidences, effectivement, dans le livre et dans ce dossier. Le dossier judiciaire, le dossier d'instruction, vous l'avez dit, Philippe Jaénada, fait quelques 30 000 pages. Vous l'avez lu en intégralité ?
Oui, à peu près. J'avais un problème, c'est que normalement, je n'avais pas le droit de le consulter. Il y a des délais pour... Et là, l'affaire est trop récente, entre guillemets, pour que j'ai le droit de la consulter. J'ai dû demander des dérogations. Et quand on les a accordées, et quand on accorde une dérogation, ça veut dire pas le droit de faire de photos.
Voilà. Et ça, c'est un gros problème pour vous.
C'est un gros problème. Pour les livres précédents, si j'ai un dossier de 5000 pages, je passe 2-3 jours aux archives à faire les photos, et ensuite, j'ai des semaines et des semaines chez moi à observer tout ça. Là, je ne pouvais pas, donc j'avais un petit dictaphone. Et je marmonnais, je chuchotais dedans, dans la salle de lecture, qui est un peu comme une bibliothèque, dont je ne pouvais pas parler. J'ai eu d'ailleurs quelques mauvaises surprises en rentrant chez moi, parfois, parce que je parlais trop près du micro, et on entend... Et je ne comprends rien, j'ai dû retourner aux archives. Et donc, j'ai fini avec 6500 fichiers audio, que j'ai réécoutés et que j'ai tapés pour faire mon fichier de base.
Bon, donc ça fait combien de pages de notes ?
1900 à peu près,
j'ai 1900 pages. Un livre important, un livre majeur qu'il faut citer.
D'ailleurs, absolument.
Vous dédiez le livre d'ailleurs aux deux auteurs, Le voleur de crimes de Stéphane Troplin et Jean-Louis Ivani, paru en 2012 aux éditions du Ravin Bleu. Qu'est-ce qui vous a bluffé dans leur travail ? Parce qu'à plusieurs reprises, vous exprimez votre admiration.
Alors, il y a plus d'une chose qui m'a bluffé dans leur travail. C'est déjà que c'est un travail absolument considérable. Moi, pour mon livre, on me dit... Oh là là, vous avez travaillé, dites donc, bravo, vous avez bien bossé. Moi, j'ai travaillé 2 ans et demi de recherche, et puis après 1 an et demi d'écriture. Eux ont bossé pendant 6, 7, 8 ans. Stéphane Troplin, d'ailleurs, est toujours complètement hanté par cette histoire. On s'écrit très régulièrement, il cherche encore s'il reste pas quelque chose dans un coin. C'est une somme de travail. En plus, c'est bien écrit, c'est pas à vocation littéraire, c'est pas à vocation romanesque, mais c'est bien écrit, c'est drôle, c'est élégant, et puis surtout, donc, ils ont compilé absolument tout ce qu'ils ont trouvé. Ils ont trouvé beaucoup de choses, et ils ont pu, contrairement à moi, avoir au téléphone des personnages de l'histoire qui étaient encore vivants. Donc, eux travaillaient dans les années 2000. Stéphane Troplin est devenu très proche de Lucien Léger à sa sortie de prison. Il l'a vu en face, il l'a regardé dans les yeux. C'est quand même important, même si c'est impalpable, c'est quand même important. Donc, voilà. Et moi, je me suis dit, ce livre m'a complètement sidéré. Et je me suis dit, est-ce que j'ai le droit de leur pomper tout leur travail pour en faire un livre plus littéraire qui aura plus d'écho médiatique? Donc, évidemment, j'ai demandé
répondu
la permission.
Oui.
Ils m'ont fait passer une sorte de petit examen, de petit test.
Ah oui,
que je crois j'ai passé correctement. Et donc, ils m'ont dit, c'est bon, vas-y, Sers-toi de tout.
Alors, il y a donc les échanges et le livre de Troplin et Ivani. Il y a les notes qu'on a évoquées. Il y a aussi le travail d'une journaliste de l'Express, que vous remerciez aussi à la fin, que vous avez surnommé Watts, comme Watson.
Comme Watson. Ouais.
Voilà. Ça fait énormément d'infos, Philippe Jalidada.
Oui, oui.
Peut-être même trop, non? Il n'y en a jamais trop pour vous?
Alors, il n'y en a jamais trop pour moi. Je sais qu'on me reproche, à juste titre, d'aller trop dans les détails, surtout pour ce livre-là, qui pèse 860 grammes et d'aller trop dans les détails, mais j'avais promis en plus à mon éditeur un petit livre de 400 pages, puis j'ai compris à un moment que j'allais devoir reporter ma promesse sur le prochain livre que je publierai avec lui. En fait, cette histoire, soit on va partout, soit on va dans les moindres recoins, les moindres détails, soit c'est pas la peine de le raconter.
Donc vous avez choisi la première solution, évidemment, mais alors comment vous la racontez? Parce que quand on a toute cette tonne d'informations, et pour ne pas se perdre soi-même, faut aussi éviter ensuite de perdre le lecteur. Comment vous avez fait pour écrire le livre? Vous avez fait un plan ultra détaillé, avec des fiches personnages, des schémas à tiroir, des flèches pour montrer comme ça les enchaînements logiques. Comment ça se passe?
C'est à peu près ça, c'est-à-dire qu'en fait, bon, déjà, je n'écris jamais une phrase sans avoir terminé tout le travail de recherche, non seulement de recherche, de collecte des informations, mais aussi de classement, d'organisation, etc. Donc, d'avoir ce fameux fichier de 1900 pages, qui est ma matière première, comme un beau tissu est la matière première pour un créateur qui va faire une robe pour la reine d'Angleterre. Et là, c'est là que mon travail commence vraiment. Ça, jusqu'à maintenant, c'est un travail d'être humain, curieux, si on veut, d'historien ou de petit enquêteur du dimanche. Et puis tout d'un coup, une fois que j'ai tout ça, je deviens romancier. C'est-à-dire que, et c'est là que moi, ça me passionne. Je dois trouver comment raconter cette histoire.
Trouver une narration qui soit à la fois claire et captivante.
Oui, c'est d'ailleurs exactement ce que disait Belmondo tout à l'heure, dans l'extrait qu'on a entendu. Il disait, c'est bien beau une bonne histoire, mais si elle est mal racontée, ça ne sert à rien. C'est exactement ça. Moi, j'ai une histoire extrêmement complexe, sombre et passionnante. Je peux rater complètement le livre. Bah, tant pis, je suis pas un bon écrivain, tant pis. Donc, moi, c'est vraiment là où je me lance une sorte de défi. Il y a 1000 possibilités. On peut commencer par la fin, par le début, par le milieu. On peut tout dire ou laisser planer des doutes pour les éclaircir au fur et à mesure. Donc voilà, je réfléchis un peu dans ma petite tête et puis j'opte pour tel ou tel schéma narratif.
Oui, le plus dur, c'est de commencer, hein, vous le dites au début du livre.
Oui, par où commencer, c'est pour ça que la première scène se passe dans une forêt, et j'avais cette sensation d'être dans une forêt. Ce qui est curieux dans une forêt, c'est que on ne voit rien autour, comme sur l'océan. Et on ne voit même pas l'horizon, c'est-à-dire que vraiment dans une forêt, on tourne la tête de tous les côtés, c'est partout pareil et on ne voit pas de bord.
Alors cette forêt, c'est le Grand Bois de Verrières, en région parisienne. Nous sommes à la page 13 et à ce moment-là de votre récit, donc on est vraiment au tout début, il est un peu plus de 4 heures du matin.
J'allume une cigarette, j'ai conscience que je ne peux pas me plaindre. Car à l'endroit où je me trouve exactement il y a 55 ans à cette heure-là, on devine l'aube, on la sent plus qu'on ne la constate. J'ai l'impression de mieux voir les contours de l'arbre le plus proche, mais je n'en suis pas sûr. Se trouvait, au pied de ce chêne contre lequel je suis assis et juste devant les miens, le cadavre encore tiède d'un garçon de 11 ans, livide et mou, vêtu d'un short de tergal beige avec de très petits carreaux, d'un polo en tissu éponge bleu avec une étiquette aux trois éléphants, et de chaussettes rouges. Il portait des chaussures à semelle orthopédique, pointure 37, de la marque Cyrano. Il avait de la terre, de l'humus et des feuilles dans la bouche et dans le nez, juste là devant moi. Je me lève, fais quelques pas pour me dégourdir les jambes, une au moins, et écraser ma cigarette contre le tronc d'un autre arbre. Je suis plutôt cartésien, j'ai du mal à croire que l'âme survit au corps et que des esprits volaient autour de nous, mais je ne peux m'empêcher, tout s'y prête, les grands arbres sinistres autour, la nuit, la solitude, de ressentir, de manière bêtement irrationnelle mais presque physique, la présence face à moi d'un fantôme allongé de petit gars. Je ne peux pas écraser une cigarette juste au-dessus de lui, puis je me concentre sur la lumière dans la forêt. C'est un phénomène intéressant, le lever du jour, on n'a pas souvent l'occasion d'y assister pleinement sans rien faire d'autre. Entre le moment où la sensation de nuit noire s'estompe, où l'on perçoit une possibilité d'éclaircissement, une lueur, où l'on se rend compte que l'on distingue un tronc ou un buisson à 5 mètres, et l'apparition officielle du soleil à l'horizon, 4h54, le 27 mai 1964, il s'écoule près de 50 minutes. C'est long, c'est l'aube, lente, progressive, du gris sombre au gris clair. Durant ces 50 minutes, l'atmosphère se modifie. On voit mieux, mais on entend moins bien, et l'on a cette impression étrange. On se sent moins seul, mais on peut regarder autour de soi, on l'est toujours. Le monde s'ouvre et parallèlement, les animaux semblent s'éloigner, même les insectes, la vie secrète a disparu. Il fait jour, maintenant, ce 27 mai 2019, jour fade, presque sale, mais jour quand même. Je n'ai plus rien à faire ici, je vais bientôt partir, retourner vers la voiture, les réverbères, la route... Mais je crois que je n'en suis pas sorti de la forêt.
Et ce livre Forêt, Philippe Jaïnada, vous l'avez divisé en trois parties. Le fou, les monstres et Solange. Solange, c'était la compagne de Lucien Léger.
Sa femme même.
Sa femme, c'est elle qui figure, je crois, sur l'illustration de couverture. Pourquoi elle ?
Pourquoi elle ? Plus j'avançais dans mes recherches sur cette affaire, plus j'étais consterné. Comme... Je disais tout à l'heure, moi je suis passionné par l'être humain et l'humanité. Et là, je découvrais partout autour du petit monstre symbolique de départ, c'est-à-dire Lucien Léger, ou plutôt l'étrangleur, partout autour de lui, je découvrais derrière des masques plus ou moins anodins, des visages hideux, des gens qui mentent, qui trichent, des gens sournois, mauvais, méchants. Et j'ai même hésité un moment à continuer le livre, parce que moi je ne pense pas que la vie soit comme ça. Là, avant d'entrer dans le studio, je me suis mis en terrasse, dehors, je regardais passer les gens, c'est un émerveillement, il suffit de s'asseoir quelque part et de regarder, moi je dois avoir l'air un peu bené, la bouche ouverte, mais et là, je ne découvrais que des choses monstrueuses, c'est le cas de le dire, autour de moi. Donc je me suis dit, est-ce que je vais écrire un livre sur une histoire sordide, d'un type qui a passé 41 ans en prison, et que des gens atroces partout autour? Et puis, tout à la fin de mes recherches, vraiment, c'est la fin du livre, mais c'est pas un truc d'écrivain. J'ai trouvé au fond du dossier la correspondance entre Solange Léger, qui était la femme de l'étrangleur et qui était considérée comme folle, qui a passé sa courte vie dans des hôpitaux psychiatriques, et quand elle parlait, on essayait de la mettre de côté, sans méchanceté, mais on disait c'est une démente, voilà. Et j'ai trouvé la correspondance entre Solange et Lucien Léger, qui m'a littéralement bouleversé, une correspondance très nombreuse. Lui était en prison, elle était enfermée en hôpital psychiatrique. Une correspondance très dense et nombreuse. Et cette femme, qu'on prenait pour une folle, est intelligente, lucide, douce, drôle, sensible. C'est une femme incroyable. Et pour moi, elle rachète tout le reste. C'est-à-dire, déjà, elle a sauvé mon livre, parce que sinon, je voyais pas quel sens j'allais donner à mon histoire. Et surtout, elle rachète l'humanité, presque, sans vouloir employer de grands mots. À la fin du livre, rétroactivement, elle éclaire le marécage nauséabond des 600 pages précédentes.
Amant du petit jour, en baiser de velours, aux cheveux éparpillés autour de nous, en tourbillon d'amour. Je sais, on n'a rien inventé d'autre avant. Se sont aimés en pleine lumière ou cachés, se sont souris comme on le fait. Ne parlons plus de cette histoire d'amour. Enchaînez-moi, je pars. Pardonne-moi cet au revoir. Hey, that's no way to say goodbye. Je n'en cherche pas une autre alors que j'erre comme un apôtre en quête d'un coin qui soit nôtre, où nous vivrons l'un pour l'autre.
Comme ton amour m'accompagne, le mien est près de toi, ma femme. Mais voilà que mes idées changent, ma tête est pleine de mélanges. Et maintenant on se sépare et chacun écris son histoire. Pardonne-moi cet au revoir.
Hey, that's no way to say goodbye. Amant du petit jour, en baiser de velours, cheveux éparpillés. éparpillés autour de nous, en tourbillon d'amour, je sais. On n'a rien inventé d'autre avant, se sont aimés en pleine lumière ou cachés, se sont souris comme on le fait. Ne parlons plus de cette histoire d'amour. Enchaînez-moi, je pars. Pardonne-moi, c'est au revoir. Baby, there's no way to say goodbye.
Goodbye, Edge Burns et Lou Doyon, extrait de l'album d'Edge Burns en hommage à Leonard Cohen, Burns on the Wire, dans VMDN sur RFI, avec l'écrivain Philippe Joinada pour son nouveau livre Printemps des monstres aux éditions Miel et Barreau, un pavé de 750 pages avec, on le disait il y a un instant, une avalanche de détails, d'hypothèses, que parfois vous affirmez, que parfois vous confirmez, parfois vous laissez un peu tout ça en suspens. En tout cas, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de précisions. Est-ce que, dans votre travail, Philippe Joinada, il y a sinon une prétention, du moins un espoir d'exhaustivité?
En tout cas, pour ce livre-là, oui. Pas pour les livres précédents, forcément, mais pour ce livre-là, oui, parce que, comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est indispensable. Cette affaire est tellement complexe, tellement floue, tellement sombre, c'est-à-dire sombre dans le sens où on ne voit pas clair, que oui, je pense que c'est indispensable pour pouvoir affirmer certaines choses, d'avoir suivi toutes les pistes, même les fausses pistes. Il faut aller au bout pour se rendre compte que c'est une fausse piste.
Et parfois, ça dure plusieurs pages. Pendant plusieurs pages, vous tenez en haleine le lecteur en disant « Ah, là, il y a peut-être un élément d'explication. »
Et non.
Et puis, d'un coup, eh bien, voilà, bah non, tout s'effondre.
Mais il faut, c'est-à-dire, je pense très sincèrement qu'entre Stéphane Troplin, Jean-Louis Vanni, donc les deux auteurs du Voleur de Crime, et moi, je pense qu'on a cherché absolument partout et qu'on a tout épuisé. En parlant d'épuiser, je parle dans le livre de la tentative d'épuisement dans le lieu parisien de Georges Perec. Si dans son livre il disait ben il y a une boulangerie et une église, évidemment le principe même du truc ne fonctionne plus. Donc je pense qu'il fallait aller voir partout pour pouvoir affirmer certaines choses, pour dire en particulier que la théorie de la justice, qu'on appelle la vérité judiciaire, qui a donc condamné Lucien Léger à passer toute sa vie, l'essentiel de sa vie vraiment, puisqu'il est rentré tout jeune à 27 ans, il est ressorti, il est mort 3 ans après, à 68 ans, il est mort à 71. Cette vérité judiciaire-là n'est pas la vérité. Ça, c'est une certitude. Moi, je ne peux
ça,
pas.
Ça, c'est votre certitude.
C'est une certitude. Là, c'est comme, je sais pas, si vous avez 5 carottes devant vous et que quelqu'un vous dit il y en a 4, ben non, vous pouvez prouver qu'il y en a 5.
Donc pour vous, ça crève les yeux. Il n'était pas coupable, en tout cas dans les conditions que la justice a décrites à l'issue de son procès.
La certitude, c'est qu'il n'est pas coupable de ce pourquoi on l'a mis 41 ans en prison. Maintenant, quelle responsabilité là? Je ne dis pas qu'il n'était pas complice ou qu'il n'a pas croisé cet enfant ou qu'il n'a pas menti. Il a menti, Lucien Léger, c'est une certitude aussi. Mais en tout cas, la vérité judiciaire ne tient pas, et ça, un enfant de 8 ans s'en rendrait compte.
Alors, la première partie du livre, je l'ai dit tout à l'heure, il s'intitule « Le fou », cette première partie. Alors, question simple, Philippe Joinada, est-ce que Lucien Léger, pour vous, était un fou ?
Pas du tout, du tout. C'est même le contraire d'un fou. C'est-à-dire que c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent, cultivé, un homme loyal, un homme de parole. C'est pas du tout un fou. Le fou, c'est ce qu'on a pensé de lui. C'est-à-dire que pour commettre un tel crime sans raison, il n'y a aucune raison, ni sexuelle, ni financière, il n'y a pas de mobile, il n'y a pas de témoin non plus, mais ça c'est autre chose. Et ensuite, aller se dénoncer lui-même, il s'est dénoncé lui-même, c'est-à-dire que non seulement il a revendiqué, ça ne servait à rien, les lettres anonymes pendant 40 jours, en disant « je suis l'étrangleur », mais en plus il s'est jeté dans les bras de la police, en disant...
Avec une sorte de jeu de piste quand même, c'est-à-dire qu'il s'est accusé lui-même à travers des petits messages comme ça, qu'il a semés... Des messages signés l'étrangleur numéro 1.
Oui, et à la fin, c'est même plus un jeu de piste. C'est-à-dire que l'étrangleur écrit aux journaux ou à la police pour dire « Allez voir Monsieur Lucien Léger ». Donc, il amène vraiment les policiers jusque chez lui.
C'est le signe de quelqu'un qui...
Il faut être fou.
Ben voilà.
Il faut être fou.
Donc, c'est fou.
Si, c'est ça. Mais oui. Non, parce que c'est pas ça, évidemment. Parce que il y a tout un truc derrière. Je veux pas raconter le livre.
Non.
C'est justement, il n'est pas fou.
Bon, il n'est pas fou, et dans un de ses messages, il écrit cette phrase « Je suis de la graine qui pousse au printemps des monstres ». C'est donc cette phrase qui aboutit au titre de votre roman, « Au printemps des monstres ». C'est une phrase terrible, c'est une phrase aussi presque poétique. Oui. En même temps, c'est pour ça qu'elle...
Moi, c'est pour ça qu'elle m'intéresse, parce oui. que, pas parce qu'elle est poétique, mais parce qu'elle elle montre qui était Lucien Léger. Sur les 54 messages qu'il a envoyés aux médias, à la police, aux parents, sont des messages vulgaires, mal écrits, avec des fautes d'orthographe, des trucs laids, enfin vraiment abominables, abominables. Et en plein milieu, il y a une phrase tout à coup, je crois qu'il y a un journal qui avait dit... on ne sait pas qui est l'assassin, mais si, il faut l'attraper, ce type est monstrueux. Il avait dit, je ne suis pas un monstre. Il a écrit, je veux dire, je suis de la graine qui pousse au printemps des monstres. Ça, c'est Lucien Léger, en fait. C'est-à-dire, l'autre, c'est l'étrangleur, qu'il a créé volontairement, odieux, atroce, abominable. Le vrai Lucien Léger, c'est celui qui a écrit, je suis de la graine qui pousse au printemps des monstres. C'est pour ça que j'ai pris une partie de cette phrase pour le titre, d'autant que printemps, ça m'intéressait parce que cette société des années 60 est le printemps trompeur de la nôtre, et puis monstre, au pluriel évidemment, parce que, comme vous disiez, le moins monstrueux, c'est celui qu'on a mis en prison, et autour de lui, il y a vraiment, vraiment des sales types. Quoi.
Alors justement, pour vous, Philippe Joinada, là je ne parle plus de Lucien Léger, hein, mais pour vous, pour l'écrivain et pour l'être humain que vous êtes, quelles sont les caractéristiques d'un monstre? Qu'est-ce qui permet aux autres, ou à soi-même, de s'appeler ainsi?
Alors, il y a une petite boulette que j'ai commise quand on écrit un gros livre dont on parle un peu et qu'il y a monstre dans le titre. Je suis même pas allé voir l'étymologie exacte, mais je pense que c'est celui qu'on montre, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Monstre, c'est un drôle de mot parce que Jean-Paul Belmondo était un monstre sacré. Un monstre, ça peut être aussi un truc hideux et dangereux. Moi, en l'occurrence, le sens là-dedans, ce que je trouve monstrueux, c'est pas la personne qui a tué Luc Taron, ce pauvre petit garçon. Ce qui est monstrueux, c'est les gens qui se cachent derrière une surface. C'est vraiment comme dans les contes pour enfants. On enlève le masque et tout d'un coup, le beau jeune homme se transforme en créature hideuse qui... Et là, il y a beaucoup. Alors ça tombe bien parce que c'est ce que j'aime dans la vie, moi, les apparences trompeuses. Mais là, j'ai été servi.
Oui. Et le lecteur, il est servi aussi en même temps que vous, parce que finalement, l'un des personnages peut-être les plus monstrueux, pour reprendre cette terminologie, eh bien, il est du côté des victimes. Hein. En tout cas, a priori, c'est le père de la victime, qui s'appelle Yves Taron. Alors, il y a un vrai renversement, parce que nous, évidemment, lecteurs de la première partie du livre, on est forcément en empathie avec les parents, c'est normal. Et ensuite, mais tout ce que vous racontez sur l'univers, sur la façon de penser, sur la façon de se comporter, sur le parcours d'Yves Taron, rend ce personnage, mais abjectissime.
Abjectissime, c'est le bon mot. Alors là, on atteint les frontières délicates pour moi de la promotion, on n'a qu'à dire, sans aucune vulgarité. C'est que, évidemment, on parlait tout à l'heure de construction. Je construis mon livre, la narration du livre, de manière à ce qu'on soit un peu déconcerté quand on découvre page 300.
Oui, ben c'est réussi. Voilà.
Alors maintenant, en parler sur RFI, qui est une radio avec une audience considérable, alors je me dis, les lecteurs, est-ce que je dois leur dire... en tout cas, oui, voilà, Yves Taron est un parfait exemple. Et Yves Taron s'est beaucoup, beaucoup manifesté dans la presse au moment de la mort de son enfant. Il y avait l'étrangleur et Yves Taron se livrait presque une bataille médiatique sur qui serait le plus à l'antenne ou le plus dans les journaux.
Après, un père qui entend que l'assassin présumé de son fils soit jugé sévèrement condamné...
C'est normal, bien sûr.
Ça peut se comprendre.
Moi qui n'en ai pas un qui touche un cheveu du mien de fils. Mais il y avait des photos étranges où on voyait Luc Taron, trois jours après la mort de son fils, sourire ou rire sur certaines photos qui sont parues dans la presse. Et puis il disait surtout, il insistait, je suis un Français moyen, je suis le petit Français ordinaire, je suis comme vous. Il s'est forgé une image vraiment, alors évidemment de la victime douloureuse, hein, c'est normal, c'est plus que normal, mais aussi il a beaucoup insisté pour susciter l'empathie, pour faire pleurer dans les chaumières. Rien n'est plus triste que la mort de l'enfant, mais alors lui, il en a rajouté.
Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi son parcours précédent. Alors, on ne va pas rentrer dans tous les détails parce que c'est absolument surprenant. Mais il y a Yves Taron, il y a aussi un autre personnage qui s'appelle Jacques Salles, qui lui aussi est un personnage qui, alors je ne sais pas si on peut dire qu'il a une double, une triple, une quadruple vie, je ne sais pas, mais enfin, on a un peu l'impression qu'il a tout fait pour qu'on ne sache jamais qui il est réellement.
Voilà. Et puis, moi, je ne peux pas en dire plus. Alors, voilà, c'est une bonne phrase. Il a tout fait pour qu'on ne sache pas qui il était réellement. Mais là, très honnêtement, au micro, je ne peux pas dire qui est.
Mais est-ce que vous, comment vous avez fait pour enquêter, justement, sur ces personnages-là? Quelles sont les sources que vous avez utilisées? Parce qu'on a parlé des sources globales il y a un instant. Tout ça, ce n'est pas dans le dossier judiciaire.
Non, non. Et puis, alors là, ça fait partie. Une bonne partie de ce que j'ai reconsulté se trouvait déjà dans ce qu'avaient trouvé Troplin et Ivani. Il y a quelques petits trucs que j'ai pu trouver simplement parce que le temps a passé et que les moyens de recherche sont plus efficaces maintenant. Et en l'occurrence, Jacques Salle, je me suis servi d'un instrument absolument formidable que je ne remercierai jamais assez, c'est Gallica, qui est le site numérique de la BNF.
La Bibliothèque nationale de France.
Voilà, pardon. Et à l'époque où on fait leur recherche, il y a 10 ans, on ne pouvait pas trouver ce que j'ai trouvé sur Jacques Salz dans de vieux journaux sur Gallica. Et je refuse d'en dire plus maintenant, même si vous me sortez un pistolet,
je ne suis pas aussi violent, même si je peux être un petit peu monstrueux, peut-être comme tout le monde.
Ça m'étonnerait.
Philippe Jaénada, en tout cas, il y a énormément de détails, énormément d'enquêtes. Alors parfois vous cherchez effectivement sur les écrans, parfois vous vous déplacez aussi.
Oui. Hein.
D'ailleurs, dès le début du livre, hein, vous êtes dans votre voiture, vous en citez la marque et la couleur, vous passez sur l'ensemble de votre enquête, beaucoup de nuits, dans des endroits qui sont de près ou de loin liés à l'enquête. Pourquoi avez-vous besoin de raconter tout cela à vos lecteurs? D'ailleurs, vous n'êtes pas tout le temps à votre avantage.
Non, non, c'est bien volontaire, évidemment. Je suis un peu pathétique, il m'arrive plein de petites misères, c'est pour alléger l'ensemble du livre.
Le fait c'est d'aller... du roman ou c'est là aussi encore
alors
la
ça,
vérité
mystère. Moi, j'ai une sorte de pacte avec les lecteurs. Tout ce que je raconte sur l'affaire Luc Taron, Lucien Léger, etc., tout ça, c'est authentique. Je n'invente rien. Quand je ne sais pas, je le dis. Je ne modifie rien, etc. Sur moi, mes petites aventures, mes aventures pathétiques, je peux faire ce que je veux. En vrai, c'est vrai, mais c'est pas obligé. Là, je pourrais... C'est pour ça que le livre est un roman. C'est-à-dire que je cite des marques de voitures, je dis que je suis malade, que j'ai ci ou ça, c'est peut-être pas vrai, ça, peu importe, je ne fais pas un travail d'enquête sur ma vie.
Elles arrivent comme ça naturellement, ces digressions intimes comme ça sur votre vie personnelle, et vraiment intime pour le coup, puisqu'il est question de santé.
Et c'est pas pour le plaisir de parler de moi, elles ont une raison, une mission. Par exemple, la forêt, au début je vais dans la forêt, tout simplement, il est très important de savoir si, c'était un jour de pleine lune, le jour de la mort du petit, il est très important de savoir si dans cette forêt, un jour de pleine lune, avec un ciel dégagé, on voit à 2 mètres ou pas. Les gens découvriront pourquoi, mais il fallait que je sache, on a dit, le juge d'instruction a dit, on ne peut rien voir dans cette forêt, un autre enquêteur a dit, mais on voit comme en plein jour, enfin bon, il fallait que j'aille voir, et donc je suis allé un jour de pleine lune, à la même heure, pour savoir exactement quelle était la luminosité, à quel moment on voyait à 10 mètres, etc. Donc ça, c'est vraiment utile pour l'enquête. Et puis sinon, j'ai voulu repasser sur tous les lieux, parce que je suis fasciné par le passage du temps, par les choses qui disparaissent ou qui persistent. Et donc moi, je suis le petit enquêteur, le petit envoyé spécial en 2020, ou 2019, ou 21, 57 ans après les faits.
Voilà, et vous pensez à cet écrivain de demain qui est créé en 2058, à propos de Philippe Jaénada, je vous cite, interné pour le restant de ses jours avant d'avoir réussi à mettre un terme au projet présomptueux qui a causé sa perte, l'absurde tentative d'explication de l'affaire Taron. Vous êtes dit à un moment donné que votre travail était absurde ou vain?
Je me suis dit à peu près 62 fois, j'ai dit au début, je disais à Stéphane Troplin, avec qui on a beaucoup correspondu, je disais, j'espère que je ne deviendrai pas aussi cinglé que toi. Et puis 2-3 ans plus tard, je faisais moins le malin parce que j'étais moi-même. C'est-à-dire, je me réveillais la nuit. Pendant 3 ans et demi, je n'ai pensé qu'à ça, 7 jours sur 7, presque 24 heures sur 24. Ma pauvre épouse, que j'aime de tout mon cœur, a été d'une vaillance exceptionnelle pour me supporter. Et voilà, je crois que je ne suis pas devenu marteau, mais j'ai vraiment été dans les profondeurs inquiétantes.
Et des poings et des lames de rasoir
Étonnez-moi Benoît, et la voix de Françoise Hardy en 1968 dans VMDN sur RFI, chanson qui avait pour parolier un certain Patrick Modiano. Philippe Joannada, c'est pas forcément évident là, à l'écoute.
Non, étonnez-moi Jean-François, j'ai envie de dire. Parce que...
voilà, en tout cas Modiano, alors il devait être dans cette émission d'une façon ou d'une autre, j'ai choisi la chanson, mais Modiano, son ombre plane, hein, vraiment d'un bout à l'autre. Finalement, de votre livre « Au printemps des monstres » paru, je le rappelle, chez Mialet Barreau. Comment sa présence s'est-elle imposée ?
Alors, sa présence s'impose dans ma vie depuis 30 ans, parce que je lis et relis l'œuvre de Patrick Modiano. Qui est, je ne sais pas comment le qualifier, je ne peux pas dire que c'est mon maître, parce que je sais que jamais je ne ferai ça. C'est comme si je disais que le recordman du monde de saut à la perche est mon maître, je vais pas tenter le coup. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui me touche, mais vraiment en profondeur, dont les livres, en tout cas, puisque je ne le connais pas, dont les livres me touchent, mais vraiment au cœur. C'est presque une sorte d'ami, enfin, ou de double, qui saurait faire ce que moi je fais d'une autre manière, et sans doute pas aussi bien que lui. Et j'ai souvent eu envie d'en parler dans mes livres, et là, je me suis autorisé une sorte de petit jeu un peu potache avec le lecteur, c'est-à-dire que je parle beaucoup, beaucoup de Patrick Modiano.
Oui.
Je cite des extraits de ses romans, je parle même de sa vie, et le lecteur doit finir par se dire, il nous saoule avec son Modiano. Il est fan, il est à quatre pattes devant Modiano, il n'arrête pas de parler de lui. Et puis, il y a un petit retournement de situation.
Bah oui, parce qu'il y a quand même
un raison. Oui, il y a une raison, et qui, moi, m'a laissé complètement bouche bée quand je suis tombé sur cette partie du dossier d'instruction. C'est que, non seulement Albert Modiano, le père de Patrick Modiano, mais des amis d'Albert qui sont, pour moi, des personnages de fiction, parce qu'ils apparaissent sous leur vrai nom, comme par exemple Jacques Boudot-Lamotte, ils apparaissent dans les romans de Modiano, et pour moi, c'est comme si tout d'un coup, je lisais une commission rogatoire d'un juge d'instruction qui disait prière d'aller interroger Donald ou Ulysse ou je ne sais pas, enfin des personnages de fiction. Et là, tout d'un coup, le réel qui croise la fiction, l'univers de fiction, c'est tout ce que j'aime. Et donc, j'espère que le lecteur s'est dit « Ah, ouf, voilà pourquoi il nous gonfle avec Modiano depuis 400 pages. »
Voilà, bon sang, mais c'est bien sûr. Alors, il y a vraiment énormément de personnages, hein, dans votre livre, Philippe Joannada, dont, évidemment, Patrick Modiano. Mais il y en a un autre aussi qu'on connaissait déjà quand on a lu votre bibliographie. C'est un avocat qui s'appelle Maurice Garçon. Maître Maurice Garçon, qui était déjà présent dans la SERP, et qui fut l'un des avocats de Lucien Léger. Hein. pas tout à fait...
L'un
des premiers, voilà. Alors, dans la SERP, vous étiez plutôt admiratif de Maurice Garçon. Là, dans Au printemps des monstres, vous avez un tout petit peu changé d'avis.
Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, là, quand je disais que j'étais consterné de découvrir, ou que je tourne le regard de découvrir des personnes monstrueuses. Le pire, pour moi, ça a été, l'un des pires, ça a été Maurice Garçon, qui effectivement...
Grand avocat. Hein,
un génie, c'est un génie, c'est le plus grand avocat français du XXe siècle, et même, à mon avis, on peut aller un peu au-delà.
Sacré personnage, de roman aussi, parce qu'il n'était pas seulement avocat.
Non, il est vraiment un type ahurissant, et j'avais presque de la vénération pour lui, et d'ailleurs, j'en témoigne dans la SERP, vraiment dans la SERP, donc qui est l'affaire de Georges Arnaud, qui était accusé d'un triple meurtre. Il l'a acquitté avec une maestria, il a bien fait de l'acquitter parce qu'il était innocent, mais bref. Et là, tout d'un coup, ce Maurice Garçon, je me dis enfin, quelqu'un à qui je vais pouvoir m'accrocher, un type formidable, et alors... À mon avis, c'est le pire de tous, c'est-à-dire, alors je ne dis pas que dans sa vie en général, hein, mais là, pour moi, si Lucien Léger a passé à tort 41 ans en prison, c'est de la faute de Maurice Garçon, qui en plus s'est montré inélégant, c'est vraiment le...
Vous utilisez le mot de lâcheté. Dire.
Oui, il s'est montré lâche, traître, menteur, enfin, c'est horrible. Ce grand homme, c'est peut-être simplement cette occasion, c'était la dernière grande affaire, il est mort peu de temps après, en 67, je crois. Pour moi, il a voulu sauver sa réputation et sa légende plutôt que son client qu'il a vraiment abandonné. Et plus qu'abandonné, c'est-à-dire que c'est presque lui qui l'a condamné, Lucien Léger, à passer sa vie en prison.
Alors, Maître Garçon en prend effectivement pour son grade, mais il n'y a pas que lui, hein. Les juges, les experts, les policiers.
Pas tous.
Les journalistes aussi, pas tous, mais quand même
certains,
beaucoup.
Certains.
Oui, certains, mais quand même, Philippe Joannada. Est-ce que cette affaire, l'affaire Luc Taron, Lucien Léger, est-ce que c'est une faillite judiciaire, une faillite policière, une faillite médiatique?
C'est une faillite humaine. Parce que la presse, la justice, la police, les médias sont avant tout humains, et c'est la preuve que... c'est une bonne chose, mais moi, j'essaye d'être indulgent, j'arrive pas toujours, mais moi, j'ai eu 4 ans à ne faire que ça, à consacrer tout mon temps à ça pour parler de cette affaire. Les journalistes, ils devaient réagir presque du jour au lendemain, ou disons d'une semaine sur l'autre.
C'était le nez dans
le
guidon.
Oui, ils étaient dedans. Les policiers ont eu... 6 mois pour essayer de mener leur enquête, le juge d'instruction 1 an et demi, dans une atmosphère, une France qui était ulcérée par cette affaire, et c'était une pression terrible. Moi, j'arrive 57 ans plus tard, j'ai tout mon temps, j'y passe 4 ans, je ne me consacre qu'à ça, ça serait un peu facile de dire, ils ont fait du mauvais boulot, donc je constate qu'il y a eu des erreurs, mais évidemment, et même quelques mensonges, mais en tout cas, c'est humain, c'est... Ça vient de ce que j'aime, c'est-à-dire l'humanité.
Eu égard à ce que vous avancez dans le livre, Philippe Joannada, est-ce que votre objectif, c'est que le dossier puisse être rouvert? Est-ce qu'il y a un élément nouveau susceptible de relancer la machine judiciaire? Ouais.
Moi, je me découvre un peu schizophrène, parce que je me découvre que je suis un homme et un écrivain. L'homme, évidemment, aimerait que cette affaire s'éclaircisse et éventuellement que le dossier soit rouvert et que Lucien Léger soit réhabilité. L'écrivain, pour être honnête, s'en tamponne un peu puisque son livre est terminé. Donc, en vrai, c'est une drôle de sensation. Hein. Mais l'homme en moi, évidemment, aimerait qu'on refasse un peu le travail qui a été bâclé. Et il y a eu une chance de le refaire en 1974. Il demandait la révision. Un homme qui s'appelait le commissaire Jacques Delarue s'est penché sur l'affaire. Il aurait dû ordonner la révision du procès. Il ne l'a pas fait. Il a fait des choses un peu étranges. Et donc voilà. Mais l'écrivain a raconté son histoire et le livre est refermé pour moi.
Merci beaucoup Philippe Joannada. Refermons à présent cette émission. Au printemps des monstres est paru, je le rappelle, aux éditions Miel et Barreau. Dans un instant, un point complet de l'actualité internationale sur RFI. C'est le journal. À demain et vous m'en direz des nouvelles.